Chapitre 2. Il ne faisait déjà plus jour quand ils sortirent du petit entresol de la rue Spontini. Robert le Ménil fit signe à un fiacre rôdeur et, jetant sur la bête et sur l'homme un coup d'œil inquiet, entra avec Thérèse dans la voiture. L'un contre l'autre, ils roulaient entre des ombres vagues coupées de brusques lumières par la ville fantôme, n'ayant dans l'âme que des impressions douces et mourantes, comme ces clartés qui venaient se mouiller à la buée des glaces. Tout en dehors d'eux leur semblait confus et fuyant, et ils sentaient dans leur âme un vide très doux. La voiture toucha près du Pont-Neuf, sur le quai des Augustins. Ils descendirent. Un froid sec avivait ce temps morne de janvier. Thérèse respira joyeusement sous sa voilette les souffles qui, traversant le fleuve, balayaient au ras du sol durci une poussière âcre et blanche comme du sel. Elle était contente d'aller libre parmi les choses inconnues. Elle voyait la tulle noire de leurs branches. Elle aimait à voir ce paysage de pierre qu'enveloppait la clarté faible et profonde de l'air, à marcher vite et ferme le long du quai où les arbres déployaient le tulle noir de leurs branches sur l'horizon roussi par les fumées de la ville, à regarder, penché sur le parapet, le bras étroit de la Seine roulant ses eaux tragiques, à goûter cette tristesse du fleuve sans berge et qui n'a là ni saule ni être. Déjà, dans les hauteurs du ciel, les premières étoiles frissonnaient. « On dirait, fit-elle, que le vent va les éteindre. » Il remarquait aussi qu'elle scintillait beaucoup. Il ne pensait pas que ce fût signe de pluie, comme le croyaient les paysans. Il avait au contraire observé que 9 fois sur 10, la scintillation des étoiles annonçait le beau temps. En approchant du petit pont, ils trouvèrent à leur droite des échoppes de ferraille éclairées par des lampes fumeuses. Elle y courut, fouilla du regard la poussière et la rouille des étalages. Son instinct de chercheuse mise en éveil, elle tourna l'angle de la rue et s'aventura jusque vers une baraque en appentis, dans laquelle, sous les solives humides du plancher, pendaient des loques sombres. Derrière les vitres sales, une bougie éclairait des casseroles, des vases de porcelaine, une clarinette et une couronne de mariée. Il ne comprenait pas le plaisir qu'elle prenait. « Mais vous attraperez de la vermine, qu'est-ce qui peut vous intéresser là-dedans ?»«
Tout. Je songe à la pauvre mariée dont la couronne est là, sous un globe. »
Le dîner de noces se fit à la porte Maillot. Il y avait un garde républicain dans le cortège. Il y en a presque dans toutes les noces qu'on voit au bois le samedi. Ils ne vous émeuvent pas, mon ami, tous ces pauvres êtres ridicules et misérables qui entrent à leur tour dans la grandeur du passé. Et parmi des tasses à fleurs ébréchées dépareillées, elle découvrit un petit couteau dont le manche d'ivoire figurait une femme plate et longue, coiffée à la maintenon. Elle l'acheta pour quelques sous. Ce qui l'enchantait, c'est qu'elle avait la fourchette. Le Ménil avoua qu'il n'entendait rien au bibelot. Mais sa tante de Lannoy était très connaisseuse. À Caen, les marchands d'antiquités ne parlaient que d'elle. Elle avait restauré et meublé son château dans le style. C'était l'ancienne maison des champs de Jean de Ménil, conseiller au Parlement de Rouen, en 1779. Cette maison, existante avant lui, était mentionnée dans un titre de 1690 sous le nom de Maison de Bouteille. Dans une salle du rez-de-chaussée se trouvait encore, au fond des armoires blanches, sous un treillage, les livres réunis par Jean de Ménil. Sa tante de Lannoy, disait-il, avait voulu les mettre en ordre. Elle y avait trouvé des ouvrages légers, ornés de gravures si libres qu'elle les avait brûlés.
« Elle est donc bête, votre tante ?» dit Thérèse.
Depuis longtemps, les histoires de Madame de Lannoy l'impatientaient. Son ami avait en province une mère, des sœurs, des tantes, une nombreuse famille qu'elle ne connaissait pas et qui l'irritait. Il en parlait avec admiration. Elle en prenait de l'humeur. Elle s'impatientait des fréquents séjours qu'il faisait dans cette famille et dont il rapportait, à ce qu'elle imaginait, une odeur de renfermé, des idées étroites, des sentiments qui la blessaient. Et de son côté, il s'étonnait naïvement et souffrait de cette antipathie. Il se tut. La vue d'un cabaret dont les vitres flambaient à travers les grilles lui rappela tout à coup le poète Chouette qui passait pour ivrogne. Il demanda avec un peu d'humeur à Thérèse s'il voyait encore ce Chouette qui lui faisait des visites en Macfarlane, un cache-nez rouge par-dessus les oreilles. Elle fut contrariée qu'il parlât comme le général Larivière. Elle ne lui avoua pas qu'elle n'avait plus vu Chouette depuis l'automne et qu'il la négligeait avec le sans-gêne d'un homme occupé, capricieux, qui n'était pas du monde. « Il a de l'esprit, dit-elle, de la fantaisie et une nature originale, il me plaît. » Et comme il lui reprochait d'avoir un goût bizarre, elle répondit vivement « Oh, je n'ai pas un goût, j'ai des goûts. Vous ne les blâmez pas tous, je pense. » Il ne la blâmait pas. Il craignait seulement qu'elle ne se fît du tort en recevant un bohème de 50 ans qui n'avait pas sa place dans une maison respectable. Elle se récria. « Pas sa place dans une maison respectable, Choulette? Mais vous ne savez donc pas qu'il va tous les ans passer un mois en Vendée chez la marquise de Rieux ?» « Oui, oui, chez la marquise de Rieux, la catholique, la royaliste, la vieille chouanne, comme elle se nomme elle-même. » Mais puisque Choulette vous intéresse, écoutez sa dernière aventure. La voici telle que Paul Vance me l'a contée. Je la comprends mieux dans cette rue où il y a des camisoles et des pots de fleurs aux fenêtres. Cet hiver, un soir qu'il pleuvait, Choulette rencontra chez un liquoriste, dans une rue dont j'ai oublié le nom, mais qui doit ressembler en misère à celle-ci, une malheureuse fille dont les garçons du liquoriste n'auraient pas voulu, et qu'il aima pour son humilité. Elle se nomme Maria. Encore, ce nom n'est-il point à elle, c'est celui qu'elle trouva cloué sur sa porte au bout de l'escalier d'un garni où elle vint loger. Choulette fut touchée de cette perfection de pauvreté et d'infamie. Il appela sa sœur et lui baisa les mains. Depuis lors, il ne la quitte plus. Il la mène en cheveux et en fichu dans les cafés du quartier latin où les étudiants riches lisent des revues. Il lui dit des choses très douces. Il pleure, elle pleure. Ils boivent. Et quand ils ont bu, ils se battent. Ils l'aiment. Il l'appelle la très chaste, sa croix et son salut. Elle était nu-pied, il lui a donné un écheveau de grosse laine et des aiguilles à tricoter pour se faire des bas. Et il fait lui-même les souliers de cette malheureuse avec des clous énormes. Il lui apprend des vers, très faciles à comprendre. Il craint d'altérer sa beauté morale en la tirant de la honte où elle vit dans une simplicité parfaite et un dénuement admirable. Le Ménil haussa les épaules. « Mais il est fou, ce Choulette. Et M. Paul Vance vous conte de jolies histoires. Bon, je ne suis pas austère, assurément, mais il y a des immoralités qui me dégoûtent. » Il marchait au hasard. Elle devint songeuse. « Oui, la morale, je sais, le devoir. Mais le devoir, c'est le diable pour le découvrir. » Je vous assure que les trois quarts du temps, je ne sais vraiment pas où il est, le devoir. C'est comme le hérisson de Miss à Joinville. Nous passions la soirée à le chercher sous les meubles, et quand nous l'avions trouvé, nous allions nous coucher. Selon lui, il y avait du vrai dans ce qu'elle disait là, et plus même qu'elle ne le croyait. Il y pensait quand il était seul. Oui, c'était à ce point que je regrette quelquefois de ne pas être resté dans l'armée. Oh oui, je prévois ce que vous allez me dire. On s'abrutit dans ce métier-là.
Sans doute, mais on sait exactement ce que l'on a à faire, et c'est beaucoup dans la vie. Je trouve que l'existence de mon oncle, le général de la Briche, est une très belle existence, toute d'honneur et assez agréable. Mais maintenant que le pays tout entier s'engouffre dans l'armée, il n'y a ni officier ni soldat. Cela ressemble à une gare le dimanche, quand les employés poussent en voiture les voyageurs ahuris. Mon oncle de la Briche connaissait personnellement tous les officiers et tous les soldats de sa brigade. Il a encore leur nom sur un grand tableau dans la salle à manger. Il les relit de temps en temps pour se distraire. À présent, comment voulez-vous qu'un officier connaisse ces hommes? Elle ne l'écoutait plus. Elle regardait au coin de la rue Galande une marchande de pommes de terre frites qui nichait derrière un châssis vitré, le visage illuminé au milieu de grandes ombres par un feu de braise, plongeant l'écumoire dans la friture chantante, en tirait des croissants dorés dont elle remplissait un cornet de papier jaune, où brillaient des brins de paille, tandis qu'une fille rousse, attentive, tendait une pièce de 2 sous dans sa main rouge. Quand la fille emporta son cornet, Thérèse, jalouse, s'aperçut qu'elle avait faim, et elle voulut absolument goûter à ses pommes de terre frites. Il résista d'abord, on ne sait pas avec quoi c'est fait. Mais il fallut enfin qu'il demandât à la marchande un cornet de 2 sous, et veilla à ce qu'on y mît du sel. Tandis que sa voilette retroussée sur le nez, elle mordait au croissant d'or, il l'entraînait dans les ruelles désertes, loin des becs de gaz. Ils se trouvèrent ainsi ramenés au quai et virent la masse noire de la cathédrale s'élevant au-delà du bras étroit de la rivière. La lune, suspendue sur la crête dentelée de la nef, argentait les pentes du toit. Notre-Dame, dit-elle, priez. Elle est lourde comme un éléphant et fine comme un insecte. La lune grimpe sur elle et la regarde avec une malice de singe. Elle ne ressemble pas à la lune campagnarde de Joinville. À Joinville, j'ai mon chemin, un chemin plat avec la lune au bout. On n'y est pas tous les soirs, mais elle y revient fidèlement, pleine, rouge, familière. C'est une voisine de campagne, une dame des environs. Je vais très sérieusement au-devant d'elle, par politesse et par amitié. Mais cette lune de Paris, oh, on ne voudrait pas la fréquenter. Ce n'est pas une personne de bonne compagnie. Ce qu'elle a vu depuis le temps qu'elle se frotte au toit. Il sourit d'un sourire tendre. Oh, ton petit chemin où tu te promenais seul et que tu disait aimer parce qu'il y avait le ciel au bout, pas bien haut, pas bien loin. Je le vois comme si j'y étais. C'était au château de Joinville, invité par Montessuy à une chasse, qu'il l'avait vu pour la première fois, qu'il l'avait tout de suite aimé, voulu. C'est là, un soir, sur la lisière du petit bois, qu'il lui avait dit qu'il l'aimait et qu'elle l'avait écouté, muette, la bouche douloureuse et les yeux vagues. Ce souvenir du petit chemin où elle se promenait seule en ces nuits d'automne l'émut, le troubla, lui fit revivre les heures enchantées des premiers désirs et des craintives espérances. Il lui chercha la main dans son manchon et pressa le poignet mince sous les fourrures. Une fillette qui portait des violettes sur une claie jonchée de branches de sapin reconnut des amoureux et vint leur offrir des fleurs. Il lui prit un bouquet de 2 sous et l'offrit à Thérèse. Elle allait vers la cathédrale. Elle songeait. C'est une bête énorme, c'est une bête de l'Apocalypse. À l'autre bout du pont, une bouquetière ridée, barbue, celle-là, grise dents et de poussière, les poursuivit avec son panier chargé des mimosas et de roses de Nice. Thérèse, qui tenait en ce moment ses violettes à la main, cherchant à les glisser dans son corsage, répondit gaiement aux offres de la vieille: Merci, j'ai ce qu'il me faut. On voit bien que vous êtes jeune, lui cria d'un ton canaille la vieille en s'éloignant.
Thérèse comprit presque tout de suite, et lui vint aux lèvres et à l'œil un petit sourire. Il passait dans l'ombre du parvis devant les figures de pierre qui, rangées aux embrasures, portaient les sceptres et les couronnes. « Entrons, » dit-elle. Il n'en avait pas envie. Il éprouvait confusément de la gêne, presque de la crainte, à paraître avec elle dans une église. Il affirma que c'était fermé. Il le croyait, il le voulait. Elle poussa le tambour et se glissa dans la nef immense où les arbres inanimés des colonnes montaient vers les hautes ténèbres. Au fond marchaient les cierges devant des fantômes de prêtres, sous les derniers gémissements des orgues qui se turent. Elle frissonna dans le silence et dit « La tristesse des églises, la nuit m'émeut. J'y sens la grandeur du néant. » Il répondit « Nous devons pourtant croire à quelque chose. S'il n'y avait pas de Dieu, si notre âme n'était pas immortelle, ce serait trop triste. » Elle resta quelque temps immobile sous les draps d'ombre qui pendaient des voûtes, puis « Mon pauvre ami, nous ne savons que faire de cette vie si courte, et vous en voulez une autre qui ne finisse pas ?» Dans la voiture qui les ramena, il dit gaiement qu'il avait passé une bonne journée. Il l'embrassa, content d'elle et de lui. Mais elle n'était pas gagnée par cette bonne humeur. C'était ce qui arrivait le plus souvent entre eux. Les derniers instants qu'ils passaient ensemble étaient gâtés pour elle par le pressentiment qu'il ne dirait pas en partant le mot qu'il faut dire. D'habitude, il la quittait court, comme si les choses n'avaient pas en lui de prolongement. À chacune de ses séparations, elle avait le sentiment confus d'une rupture. Elle en souffrait à l'avance et devenait irritable. Sous les arbres du cours La Reine, il lui prit la main, la baisa à petits coups. « N'est-ce pas, Thérèse, que c'est rare de s'aimer comme nous nous aimons ?»«
Rare, oh, je ne sais pas, mais je crois que vous m'aimez. »«
Et vous ?»« Moi aussi, je vous aime. »« Et vous m'aimerez toujours ?»«
Oh, que sait-on jamais ?»
Et voyant le visage de son ami s'assombrir, « Seriez-vous plus tranquille avec une femme qui jurerait de n'aimer que vous toute la vie ?» Il restait inquiet, l'air malheureux. Elle fut bonne et le rassura tout à fait.
« Mais vous le savez bien, mon ami, je ne suis pas légère. Je ne suis pas une gâcheuse, comme la princesse Séniavine. »
Presque au bout du cours de la reine, ils se dirent adieu sous les arbres. Il garda la voiture pour se faire mettre rue Royale. Il dînait au cercle et allait au théâtre. Il n'avait pas de temps à perdre. Thérèse rentra chez elle à pied. En vue de la colline du Trocadéro, qui lançait des feux comme une parure de diamant, elle se rappela la bouquetière du petit pont. Cette parole jetée dans le vent noir, « Oh, à bien que vous êtes jeune !» lui revenait à la mémoire, non plus gouailleuse et grivoise, mais inquiétante et triste. On voit bien que vous êtes jeune. Oui, elle était jeune, elle était aimée, et elle s'ennuyait. Chapitre 3. Au milieu de la table, la corbeille renfermait un massif de fleurs dans son large cercle de bronze doré, où les aigles s'éployaient parmi des étoiles et des abeilles, sous les anses lourdes formées de cornes d'abondance. Sur les côtés, des victoires ailées soutenaient les branches enflammées des candélabres. Ce surtout de style empire avait été donné par Napoléon en 1812 au comte Martin de Laine, grand-père du comte Martin Bellem actuel. Martin de Laine, député au corps législatif en 1809, fut nommé l'année suivante membre de la commission des finances, dont les travaux assidus et secrets convenaient à son esprit laborieux et timide. Bien que libéral d'origine et de tendance, il plut à l'empereur par son application et par une exacte probité qui savait n'être pas importune. 2 ans, il fut sous une pluie de faveurs. En 1813, il fit partie de cette majorité modérée qui approuva le rapport dans lequel M. Lainé, donnant à l'Empire chancelant des leçons tardives, censurait à la fois la puissance et le malheur. Le 1er janvier 1814, il accompagna ses collègues aux Tuileries. L'empereur leur fit un accueil effrayant. Il chargea dans leur rang. Violent et sombre, dans l'horreur de sa force présente et de sa chute prochaine, il les accabla de sa colère et de son mépris. Il allait et venait dans leur ligne consternée, quand tout à coup il saisit au hasard le comte Martin par les épaules, le secoua, le traîna en s'écriant « Un trône, c'est 4 morceaux de bois recouverts de velours. Non, un trône, c'est un homme. » Et cet homme, c'est moi. Vous avez voulu me jeter de la boue. Est-ce le moment de me faire des remontrances quand 200 000 Cosaques franchissent nos frontières? Votre monsieur l'aîné est un méchant homme. On lave son linge sale en famille. » Et tandis que sa fureur se répandait, sublime ou triviale, il tordait dans sa main le collet brodé du député de l'Aisne. « Le peuple me connaît. Il vous connaît pas. « Je suis l'élu de la nation, vous êtes les délégués obscurs d'un département. » Il leur prédit le sort des Girondins. Le bruit de ses éperons accompagnait les éclats de sa voix. Le comte Martin en resta tremblant et bègue pour le reste de sa vie. Et c'est en tremblant que, tapi dans sa maison de Laon, il appela les Bourbons après la défaite de l'empereur. En vain, les 2 restaurations, le gouvernement de Juillet et le Second Empire, couvrirent de croix et de cordons sa poitrine toujours oppressée. Élevé aux plus hautes fonctions, chargé d'honneur par 3 rois et 1 empereur, il sentit toujours sur son épaule la main du Corse. Il mourut sénateur de Napoléon III, laissant un fils agité du tremblement héréditaire. Ce fils avait épousé Mademoiselle Bellem, fille du premier président de la cour de Bourges, et avec elle les gloires politiques d'une famille qui donna 3 ministres à la monarchie tempérée. Les Bellem, gens de robe sous Louis XV, relevèrent les origines jacobines des Martins. Le 2e comte Martin fit partie de toutes les assemblées jusqu'à sa mort, survenue en 1881. Charles Martin Bellem, son fils, prit sans grand-peine son siège à la Chambre. Ayant épousé Mademoiselle Thérèse Montessuie, dont la dot vint soutenir sa fortune politique, il marqua discrètement parmi ses 4 ou 5 bourgeois titrés et riches, qui, raillés à la démocratie et à la République, furent reçus sans trop de mauvaise grâce par les républicains de carrière, que flattait l'aristocratie des noms et rassurait la médiocrité des esprits. Dans la salle à manger où sur les portes se devinait çà et là, au milieu des ombres, le poil tacheté des chiens d'ouderie, devant le surtout semé d'étoiles et d'abeilles d'or, entre les 2 victoires portant des lumières, le comte Martin Bellem faisait les honneurs de sa table, avec cette bonne grâce un peu morne, cette politesse triste, naguère encore désignée à l'Élysée pour représenter auprès d'une grande cour du Nord la France isolée et recueillie. Il adressait de temps en temps de pâles paroles à droite à Madame Garin, la femme de l'ancien garde des Sceaux, à gauche à la princesse Séniavine, qui, chargée de diamants, s'ennuyait à crier. Vis-à-vis de lui, de l'autre côté de la corbeille, la comtesse Martin, ayant à ses côtés le général Larivière et M. Schmoll de l'Académie des inscriptions, caressait des souffles de son éventail ses épaules fines et pures. Aux 2 demi-cercles où se prolongeait la table, était rangé M. Montessuie,
Robuste, l'œil bleu et le teint coloré, une jeune cousine, Madame Belaine de Saint-Nom, embarrassée de ses longs bras maigres, le peintre du Vicquet, Monsieur Daniel Salomon, Paul Vance, le député Garin, Monsieur Bellême de Saint-Nom, un sénateur inconnu et de Chartres, qui dînaient pour la première fois dans la maison. La conversation, d'abord grêle et menue, s'enfla, se prolongea en un murmure confus, sur lequel s'éleva la voix de Garin. Toute idée fausse est dangereuse. On croit que les rêveurs ne font point de mal, on se trompe. Ils en font beaucoup. Les utopies les plus inoffensives en apparence exercent réellement une action nuisible. Elles tentent à inspirer le dégoût de la réalité. Oh, c'est peut-être aussi, dit Paul Vance, que la réalité n'est pas belle. L'ancien garde des Sceaux protesta qu'il était l'homme de toutes les améliorations possibles. Et se rappelait qu'il avait demandé sous l'Empire la suppression des armées permanentes, et en 1880 la séparation des Églises et de l'État, il déclara que, fidèle à son programme, il restait le serviteur dévoué de la démocratie. Sa devise, disait-il, était ordre et progrès. Il croyait vraiment l'avoir trouvé. Et Montesquieu répliqua avec sa rude bonhomie: Allô, monsieur Garin, soyez sincère. Avouez qu'il n'y a pas une réforme à faire et qu'on peut tout au plus changer la couleur des timbres-poste. Bonnes ou mauvaises, les choses sont ce qu'elles doivent être. Oui, ajouta-t-il, les choses sont ce qu'elles doivent être. Mais elles changent sans cesse. Depuis 1870, la situation industrielle et financière du pays a traversé quatre ou cinq révolutions que les économistes n'avaient pas prévues et qui ne comprennent pas encore. Dans la seconde moi société, comme dans la nature, les transformations s'opèrent par le dedans. En matière de gouvernement, il s'en tenait aux vues courtes et nettes. Fortement attaché au présent et peu soucieux de l'avenir, les socialistes ne troublaient guère. Sans s'inquiéter si le soleil et le capital s'éteindraient un jour, il en jouissait. Selon lui, il fallait se laisser porter. Il n'y avait que les imbéciles qui résistaient au courant et que les fous qui le devançaient. Mais le comte Martin, triste par nature, avait de sombres pressentiments. Il annonçait à mots couverts des catastrophes. Ces paroles craintives vinrent à travers les fleurs de la corbeille et mouvèrent M. Schmoll, qui commença de gémir et de prophétiser. Il expliqua que les peuples chrétiens étaient incapables, seuls et par eux-mêmes, de sortir tout à fait de la barbarie, et que, sans les Juifs et les Arabes, l'Europe serait encore aujourd'hui comme au temps des croisades, plongée dans l'ignorance, la misère, la cruauté. Le Moyen Âge, dit-il, n'est clos que dans les manuels d'histoire qu'on donne aux écoliers pour leur fausser l'esprit. En réalité, les barbares sont toujours les barbares. La mission d'Israël est d'instruire les nations. C'est Israël qui, au Moyen Âge, apporta en Europe la sagesse de l'Asie. Le socialisme vous effraie. C'est un mal chrétien, comme le monachisme. Et l'anarchie, n'y reconnaissez-vous pas la vieille lèpre des Albigeois, des Vaudois? Les Juifs, qui instruisirent et policèrent l'Europe, peuvent seuls aujourd'hui la sauver du mal évangélique dont elle est dévorée. Mais ils ont manqué à leur devoir, ils se sont faits chrétiens parmi les chrétiens, et Dieu les punit, il permet qu'on les exile et qu'on les dépouille. L'antisémitisme fait partout des progrès effrayants. En Russie, mes coreligionnaires sont chassés comme des bêtes sauvages. En France, les emplois civils et militaires se ferment aux Juifs. Ils n'ont plus accès dans les cercles aristocratiques. Mon neveu, le jeune Isaac Koblenz, a dû renoncer à la carrière diplomatique après avoir passé brillamment l'examen d'admission. Les femmes de plusieurs de mes collègues, lorsque Madame Schmoll leur fait visite, étalent sous ses yeux avec affectation des feuilles antisémitiques. Et croiriez-vous que le ministre de l'Instruction publique m'a refusé la croix de commandeur que je lui commandais? Voilà l'ingratitude, voilà l'aberration. L'antisémitisme, c'est la mort, entendez-vous, de la civilisation européenne.
Ce petit homme avait un naturel qui passait tout l'art du monde. Grotesque et terrible, il consternait la table par sa sincérité. Madame Martin, qui l'amusait, lui en fit compliment.
« Au moins, lui dit-elle, vous défendez vos coreligionnaires. Vous n'êtes pas, monsieur Schmoll, comme une très belle dame juive de ma connaissance, qui, ayant lu dans un journal qu'elle recevait l'élite de la société israélite, alla crier partout qu'on l'insultait.
Je suis sûr que vous ne savez pas, madame, combien la morale juive est belle et supérieure aux autres morales. Connaissez-vous la parabole des trois anneaux ?
Cette question se perdit dans la rumeur des dialogues où se croisaient la politique étrangère, les expositions de peinture, les scandales élégants, les discours académiques. On parla du nouveau roman et de la prochaine pièce. C'était une comédie. Napoléon y avait un rôle épisodique. La conversation se fixa sur Napoléon plusieurs fois, mis au théâtre et nouvellement étudié dans les livres très lus. Objet de curiosité, personnage à la mode, non plus héros populaire, demi-dieu botté de la patrie, comme au jour où Norvin et Béranger, Charlet et Raffet composaient sa légende, mais personnage curieux, type amusant dans son intimité vivante, figure dont le style plaisait aux artistes, dont le mouvement attirait les badauds. Garin, qui avait fondé sa fortune politique sur la haine de l'Empire, jugeait sincèrement que ce retour du goût national n'était qu'un engouement absurde. Il n'y découvrait aucun danger et n'en éprouvait point de crainte. Chez lui, la peur éclatait soudaine et féroce. Pour le moment, il était bien tranquille, car il ne parla ni d'interdire la représentation, ni de saisir les livres, ni d'emprisonner les auteurs, ni de rien réprimer. Calme et sévère, il ne voyait en Napoléon que le condottiere de Taine qui donna à Volney un coup de pied dans le ventre. Et chacun voulut définir le vrai Napoléon. Le comte Martin, en face du surtout impérial et des victoires ailées, parla avec convenance de Napoléon, organisateur et administrateur, et le mit très haut comme président du Conseil d'État, où sa parole portait la lumière sur les points obscurs. Garin affirma que dans ces séances trop fameuses, Napoléon, sous prétexte de prendre une prise de tabac, demandait aux conseillers leur boîte d'or ornée de miniatures, garnies de diamants qu'on ne revoyait plus jamais. À la fin, on n'apportait au Conseil que des queues de rats. Il tenait l'anecdote du fils, Mounier lui-même. Montesquieu estimait en Napoléon l'esprit d'ordre. « Il aimait, dit-il, la besogne bien faite, c'est un goût qu'on n'a plus guère. » Le peintre du Viquet, qui avait des idées de peintre, était embarrassé. Il ne retrouvait pas, sur le masque funèbre rapporté de Sainte-Hélène, les caractères de cette face belle et puissante que les médailles et les bustes ont consacré. On pouvait s'en convaincre maintenant que le bronze de ce masque, tiré des greniers, se voyait pendu chez tous les brocanteurs au milieu d'aigles et de sphinx en bois doré. Et selon lui, puisque le vrai visage de Napoléon n'était pas napoléonien, la vraie âme de Napoléon pouvait bien ne pas être napoléonienne. C'était peut-être celle d'un bon bourgeois. On l'avait dit, et il inclinait à le croire. D'ailleurs, du Viquet, qui se flattait d'avoir fait les portraits du siècle, savait que les hommes célèbres ne sont guère à l'idée qu'on s'en fait. M. Daniel Salomon fit observer que le masque dont parlait du Viquet, le moulage pris sur le visage inanimé de l'empereur et rapporté en Europe par le docteur Anton Marquis, avait été pour la première fois coulé en bronze et édité par souscription sous Louis-Philippe en 1833, et qu'alors il avait inspiré de la surprise et de la défiance. On soupçonnait cet Italien, apothicaire de comédie, bavard et affamé, de s'être moqué du monde. Les disciples du docteur Gall, dont le système était alors en faveur, tenaient le masque pour suspect. Ils n'y trouvaient point les bosses du génie, et le fond examiné d'après les théories du maître ne présentait dans sa conformation rien de remarquable. « Précisément, dit la princesse Sévianine, Napoléon n'est remarquable que pour avoir donné un coup de pied dans le ventre de Volney et volé des tabatières garnies de diamants. C'est M. Garin qui vient de nous l'apprendre. » « Et encore, dit Madame Martin, n'est-on pas bien sûr qu'il ait donné le coup de pied ?»« Comme tout c'est à la longue, reprit également la princesse, Napoléon n'a rien fait, il n'a même pas donné un coup de pied à Volney, et il avait la tête d'un crétin. » Le général Larivière sentit qu'il devait charger à son tour. Il lança cette phrase. « Napoléon, sa campagne de 1813 est très contestée. » Le général avait l'idée de plaire à Garin, et il n'avait pas d'autre idée. Toutefois, il parvint, avec un peu d'effort, à formuler un jugement d'ensemble. Napoléon a commis des fautes dans sa position. Il ne devait pas en commettre. Et il se tut, très rouge. Madame Martin demanda, « Et vous, monsieur Vance, que pensez-vous de Napoléon ?»« Bon, madame, j'ai peu de goût pour les trognes à épée, et les conquérants me semblent tout bonnement des fous dangereux. Malgré tout, cette figure de l'empereur m'intéresse comme elle intéresse le public. Je lui trouve du caractère et de la vie. Il n'y a pas de poème ni de roman d'aventure qui vaille le mémorial, qui pourtant est écrit d'une manière ridicule. Bon, ce que je pense de Napoléon, puisque vous voulez bien le savoir, c'est que, fait pour la gloire, il s'y montre dans sa simplicité brillante d'un héros d'épopée. Un héros doit être humain. Napoléon fut humain. Oh, 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 fit-on. Mais Paul Vance poursuivit. Oui, il était violent et léger, et parla profondément humain. Je veux dire, semblable à tout le monde. Il voulut, avec une force singulière, tout ce que le commun des hommes estime et désire. Il eut lui-même les illusions qu'il donna au peuple. Ce fut sa force et sa faiblesse, ce fut sa beauté. Il croyait à la gloire. Il pensait de la vie et du monde à peu près ce qu'en pensait un de ses grenadiers. Il garda toujours cette gravité enfantine qui se plaît aux yeux des sabres et des tambours, et cette sorte d'innocence qui fait les bons militaires. Il estimait sincèrement la force. Il fut l'homme des hommes, la chair de la chair humaine. Il n'eut pas eu pensée qu'il ne fût une action, et toutes ses actions furent grandes et communes. C'est cette vulgaire grandeur qui fait les héros. Et Napoléon est le héros parfait. Son cerveau ne dépassa jamais sa main, cette main petite et belle qui broya le monde. Il n'eut pas un seul moment le souci de ce qu'il ne pouvait pas atteindre. « Alors, dit Garin, selon vous, c'est pas un génie intellectuel. »« Oui, bien, je suis de votre avis. »« Bien sûr, reprit Paul Vance, il avait le génie qu'il faut pour évoluer brillamment dans le cirque civil et militaire du monde. » Mais il n'avait pas le génie spéculatif. Ce génie-là, c'est une autre paire de manches, comme dit Buffon. Nous possédons le recueil de ses écrits et de ses paroles. Le style a le mouvement et l'image. Et dans cet amas de pensées, il ne se trouve pas une curiosité philosophique, pas un souci de l'inconnaissable, pas une inquiétude du mystère qui enveloppe la destinée. À Sainte-Hélène, quand il parle de Dieu et de l'âme, il semble un bon petit écolier de 14 ans. Jeté dans le monde, son âme se trouva à la mesure du monde et l'embrassa tout. Rien de cette âme n'alla se perdre dans l'infini. Poète, il ne connut que la poésie de l'action. Il borna à la terre son rêve puissant de la vie. Dans sa puérilité terrible et touchante,
Il crut qu'un homme peut être grand, et cet enfantillage ne le quitta pas même avec le temps et le malheur. Sa jeunesse, ou plutôt sa sublime adolescence, dura autant que lui, parce que les jours de sa vie ne s'étaient pas ajoutés les uns aux autres pour former une maturité consciente. C'est l'éclat prodigieux des hommes d'action. Ils sont tout entiers dans le moment qu'ils vivent et leur génie se ramasse sur un point. Ils se renouvellent sans cesse et ne se prolongent pas. Les heures de leur existence ne sont point liées entre elles par une chaîne de méditations graves et désintéressées. Ils ne continuent pas de vivre. Ils se succèdent dans une suite d'actes. Aussi manquent-ils de vie intérieure. Ce défaut est particulièrement sensible chez Napoléon, qui ne vécut jamais au-dedans de lui-même. De là, cette légèreté de caractère, qui lui fit supporter aisément le poids énorme de ses maux et de ses fautes. Son âme, toujours neuve, renaissait chaque matin. Il eut plus que tout autre la capacité du divertissement. Le premier jour qu'il vit le soleil se lever sur son rocher funèbre de Sainte-Hélène, il sauta de son lit en sifflant un air de romance. C'était la paix d'une âme supérieure à la fortune, c'était surtout la légèreté d'un esprit prompt à renaître. Il vivait du dehors. Garin, qui n'aimait guère ce tour ingénieux d'esprit et de langage, voulut hâter la conclusion. En un mot, il y avait du monstre en cet homme. Non, les monstres n'existent pas, répliqua Paul Vance. Et les hommes qui passent pour des monstres inspirent l'horreur. Napoléon fut aimé de tout un peuple. Ce fut sa force de soulever sur ses pas l'amour des hommes. La joie de ses soldats était de mourir pour lui. La comtesse Martin aurait voulu que de Chartres donnât aussi son avis. Mais il s'en défendit avec une espèce d'effroi.
« Connaissez-vous, dit Schmoll, la parabole des trois anneaux, inspiration sublime d'un juif portugais ?»
Garin, tout en félicitant Paul Vance de son brillant paradoxe, regrettait que l'esprit s'exerçât ainsi aux dépens de la morale et de la justice. « Il y a un principe, dit-il, c'est que les hommes doivent être jugés sur leurs actions. »
« Et les femmes ?» demanda brusquement la princesse Seniavine. « Les jugez-vous sur leurs actions ? Et comment savez-vous ce qu'elles font ?»
Le son des voix se mêlait au tintement clair de l'argenterie. Un air chaud, alourdi de vapeur, baignait la salle. Les roses appesanties s'effeuillaient sur la nappe. Les pensées montaient, plus ardentes au cerveau. Le général Larivière fit des rêves. « Quand tu m'auras au fond d'une oreille, dit-il à sa voisine, j'irai vivre à Tours, j'y cultiverai des fleurs. » Et il se vanta d'être un bon jardinier. On avait sonné son nom à une rose, il en était flatté. Schmoll demanda encore si l'on connaissait la parabole des trois anneaux. Cependant la princesse taquinait le député.
« Vous ne savez donc pas, monsieur Garin, qu'on fait les mêmes choses pour des raisons très différentes. »
Montesquieu lui donna raison. « Il est bien vrai, comme vous dites, madame, que les actions ne prouvent rien. » Cette pensée est frappante dans un épisode de la vie de Don Juan qui n'a été connu ni de Molière ni de Mozart et que révèle une légende anglaise dont je dois la connaissance à mon ami James Lovell de Londres. On y apprend que le grand séducteur perdit son temps avec trois femmes. L'une était une bourgeoise, elle aimait son mari. L'autre, une religieuse, elle ne consentit point à violer ses vœux. Et la troisième, qui avait longtemps mené une vie de débauche, devenue laide, se trouvait servante dans un bouge. Après ce qu'elle avait fait, après ce qu'elle voyait, l'amour ne lui disait plus rien. Et ces trois femmes tinrent la même conduite pour des raisons très différentes. Une action ne prouve rien. C'est la masse des actions, leur poids, leur somme, qui fait la valeur d'un être humain.
Certaines de nos actions, dit Madame Martin, ont notre notre visage. Ce sont nos filles. D'autres ne nous ressemblent pas du tout.
Elle se leva et prit le bras du général. En passant au salon au bras du Garin, la princesse dit « Elle a raison, Thérèse. D'autres ne nous ressemblent pas du tout. De petites négresses qu'on a eues en dormant. » Les nymphes des tapisseries souriaient vainement dans leur fraîcheur passée aux hôtes qui ne les voyaient pas. Madame Martin servit le café avec sa jeune cousine, Madame Bellem de Saint-Nom. Elle fit à Paul Vance des compliments sur ce qu'il avait dit à table. « Vous avez parlé de Napoléon avec une liberté d'esprit qui est bien rare dans les conversations que j'entends. J'avais remarqué que les petits-enfants, quand ils sont très beaux, ont l'air dès qu'ils boudent de Napoléon le soir de Waterloo. Vous m'avez fait sentir les raisons très profondes de cette ressemblance. » Puis, se tournant vers de Chartres, « Et vous, aimez-vous Napoléon ?»«
Madame, je n'aime pas la Révolution. Et Napoléon, c'est la Révolution beauté. » »«
Et pourquoi, monsieur de Chartres, n'avez-vous pas dit cela pendant le dîner ?»« Mais je vois, vous ne consentez à avoir de l'esprit que dans les petits coins. »
Le comte Martin Bellem conduisit les hommes au fumoir. Paul Vance resta seul avec les dames. La princesse Séniavine lui demanda s'il avait fini son roman et quel en était le sujet. C'était une étude dans laquelle il s'efforçait d'atteindre à cette vérité formée d'une suite logique de vraisemblances qui, ajoutées les unes aux autres, atteignent à l'évidence. Par là, dit-il, le roman acquiert une force morale que dans sa lourde frivolité n'eut jamais l'histoire. Elle voulut savoir si c'était un livre pour les femmes. Il affirma que non.
« Vous avez tort, monsieur Vance, de ne pas écrire pour les femmes. C'est tout ce qu'un homme supérieur peut faire pour elles. » Et comme il voulait savoir ce qui lui donnait cette idée, « C'est, dit-elle, que je vois toutes les femmes intelligentes prendre des imbéciles. Qui les ennuie ?» Bien sûr, mais les hommes supérieurs les ennuieraient davantage. Ils auraient plus de ressources pour y réussir. Mais dites-moi le sujet de votre roman.
Vous y tenez?
Oh non, je ne tiens à rien.
Eh bien voilà, c'est une étude de mœurs populaire, l'histoire d'un jeune ouvrier, sobre et chaste, beau comme une fille, avec une âme de vierge, une âme close. Il est ciseleur et travaille bien. Le soir, près de sa mère qu'il aime, il étudie, il lit des livres. Dans son esprit simple et nu, les idées se logent comme des balles dans un mur. Il n'a pas de besoin, il n'a ni les passions ni les vices qui nous attachent à la vie. Il est solitaire et pur. Doué de vertus fortes, il lui en vient l'orgueil. Il vit parmi des brutes misérables. Il voit souffrir. Il a du dévouement sans humanité. Il a cette charité froide qu'on nomme l'altruisme. Il n'est pas humain parce qu'il n'est pas sensuel.
Ah, il faut être sensuel pour être humain.
Certainement, madame. La pitié est dans les entrailles comme la tendresse est sur la peau. Il n'est pas assez intelligent pour douter. Il est croyant, il croit ce qu'il a lu. Et il a lu que pour établir le bonheur universel, il suffisait de détruire la société. La soif du martyr le dévore. Un matin, ayant embrassé sa mère, il sort. Il va guetter le député socialiste de son arrondissement, le voit, se jette sur lui, il lui enfonce un burin dans le ventre en criant « Vive l'anarchie !» On l'arrête, on le mesure, on le photographie, on l'interroge, on le juge, on le condamne à mort et on le guillotine. Voilà mon roman.
Il sera pas très amusant, dit la princesse, mais ce n'est pas de votre faute. Vos anarchistes sont aussi timides et modérés que les autres Français. Les Russes, quand ils s'y mettent, ont plus d'audace et de fantaisie.
La comtesse Martin vint demander à Paul Vance s'il connaissait ce monsieur très doux là-bas qui ne disait rien et promenait autour de lui ses regards de chien perdu. C'est son mari qui l'avait invité. Elle ne savait de lui ni son nom ni rien. Paul Vance pouvait dire seulement que c'était un sénateur. Il l'avait vu un jour, par hasard, au Luxembourg, dans la galerie qui sert de bibliothèque. « J'y venais examiner, oui, la coupole ou de la croix à peint dans un bois de myrte bleuissant, les héros et les sages de l'Antiquité. Il avait cet air pauvre et piteux, il se chauffait. » Il sentait le drap mouillé. Il causait avec de vieux collègues et il disait en se frottant les mains « Pour moi, ce qui prouve que la République est le meilleur des gouvernements, c'est qu'en 1871, elle a pu fusiller en une semaine 60 000 insurgés sans devenir impopulaire. Après une telle répression, tout autre régime se serait rendu impossible. »
« Mais c'est un très méchant homme, dit Madame Martin. Moi qui avais pitié de lui en le voyant si timide et si gauche. »
Madame Garin, le menton mollement assis sur sa poitrine, sommeillait dans la paix de son âme ménagère et rêvait de son potager sur le coteau de la Loire où venaient la saluer les Orphéons. Joseph Schmoll et le général Larivière sortirent du fumoir, l'ayant encore égayé des propos grivois qu'il venait d'échanger. Le général s'assit entre la princesse Seniavine et Madame Martin.
« J'ai rencontré ce matin au bois la baronne Warburg, qui montait une bête superbe. Elle m'a dit « Général, comment faites-vous donc pour avoir toujours de beaux chevaux ?» Et je lui ai répondu « Madame, pour avoir de beaux chevaux, il faut être ou très riche ou très malin. »
Et il était si content de cette riposte qu'il la répéta deux fois en clignant de l'œil. Paul Vance s'approcha de la comtesse Martin.
« Ah, je sais le nom du sénateur. Il s'appelle Loyer. Oui, il est vice-président d'un groupe et auteur d'un livre de propagande intitulé « Le crime du 2 décembre ».
Le général poursuivit.
« Oh, il faisait un temps de chien. » Me suis mis sous le champignon. Le Ménil s'y trouvait. Oh, j'étais de mauvaise humeur. Il se moquait de moi en dedans. J'ai bien vu. Il s'imagine, parce que je suis général, je dois aimer le vent, la grêle et la neige fondue. C'est absurde. Il m'a dit que le mauvais temps ne lui était pas désagréable et qu'il allait la semaine prochaine chasser le renard avec des amis.
Il y eut un silence. Le général reprit.
« Je lui souhaite du plaisir, mais je ne l'envie pas. La chasse au renard est pas bien agréable. »«
Mais elle est utile, » dit Montessuie. Le général haussa les épaules.
« Oh, le renard est dangereux pour les poulaillers, et qu'au printemps, quand il nourrit sa famille. »«
Le renard, » répliqua Montessuie, « préfère la garenne à la basse-cour. C'est un fin braconnier qui fait moins de tort aux fermiers qu'aux chasseurs. » « Ça, c'est quelque chose. »
Thérèse, distraite, n'entendait pas la princesse qui lui parlait. Elle songeait.
« Mais il ne m'a même pas averti qu'il s'en allait. »«
À quoi pensez-vous, chérie ?»«
Moi, rien d'intéressant. »